Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Feuillet d'Hypnos est un recueil de 237 fragments en prose poétique, rédigé principalement entre 1944 par René Chat, alors engagé dans la résistance française sous le nom de Capitaine Alexandre. Publié en 1946, puis repris dans Fureur et Mystère, le livre tient à la fois du carnet de guerre, de la méditation morale et du poème condensé. Son titre renvoie à Hypnos, dieu grec du sommeil et frère de la mort, figure fictive à laquelle Char confie ses notes. Le recueil ne raconte pas la guerre selon une chronologie continue. Il juxtapose plutôt des scènes, des portraits, des décisions tragiques, des pensées brèves et des images de la nature provençale. Cette discontinuité correspond aux conditions de la clandestinité autant qu'à une poétique du fragment. Char cherche moins à produire un document héroïque qu'à saisir ce que la violence historique révèle des êtres, de la responsabilité et de la parole. L'ouvrage propose ainsi une expérience de lecture exigeante, où la densité du langage oblige à ralentir et à relier les fragments entre eux. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un carnet de résistance qui refuse le récit héroïque linéaire. Le cadre historique est indispensable à la lecture de Feuillet d'Hypnos, mais il ne transforme pas le livre en chronique militaire. René Char dirige un réseau de maquisards dans la région de Céreste, au sein des Basses-Alpes, et écrit sous le danger immédiat. Les fragments enregistrent donc des réalités concrètes de la guerre clandestine, telles que la surveillance, les arrestations, les exécutions, les choix tactiques et la menace des représailles contre les civils. Toutefois, Char évite le ton du bilan ou de la célébration patriotique. Il ne cherche pas à établir une suite exhaustive de faits ni à se placer au centre de la mémoire résistante. La forme discontinue respecte au contraire ce que l'expérience ne permet pas de totaliser. Chaque note conserve une part de silence, de doute ou de perte. Cette retenue est particulièrement sensible lorsque le texte aborde des décisions dont le coût humain demeure irréparable. La guerre y apparaît comme un espace où agir reste nécessaire sans devenir simple ou pur. Le livre tire de là sa force éthique. Il témoigne de la résistance sans effacer la peur, la fatigue, les divisions possibles et le poids de la responsabilité. La grandeur des combattants ne vient pas de certitudes glorieuses, mais de leur capacité à maintenir une exigence humaine dans des circonstances destinées à la détruire. Deuxièmement, le fragment comme forme adaptée à l'urgence, au secret et à la pensée, les 237 unités numérotées adoptent des dimensions et des registres très variés. Certaines sont proches de la maxime, d'autres prennent la forme de notations lyriques, de récits brefs, de portraits ou de méditations. Cette composition ne relève pas seulement du goût de Char pour une écriture resserrée. Elle traduit une situation où le temps manque, où les informations doivent rester partielles et où une parole trop développée pourrait fausser la violence vécue. Le fragment conserve une trace plutôt qu'il ne prétend achever une explication. Il oblige ainsi le lecteur à participer activement au sens, en rapprochant les échos entre la nature, les compagnons, la mort et la lutte. La concision donne aux phrases une intensité presque aphoristique. Une image, une injonction ou une opposition peuvent porter une réflexion morale complète, tout en demeurant ouverte à plusieurs interprétations. Cette économie de langage rapproche Char des penseurs présocratiques, notamment Héraclite, sans réduire son écriture à la philosophie. Elle conserve également une liberté d'image issue de son parcours surréaliste. Le résultat est une prose où la précision des circonstances côtoie une forte condensation poétique. Cette forme peut dérouter lors de la première lecture, car elle ne fournit pas de continuité narrative stable. Elle permet en revanche de rendre perceptible une conscience soumise à la pression des événements, attentive à ce qui survit dans un geste, un visage ou une parole. Troisièmement, lucidité et amitié comme réponse humaine à la terreur, le recueil ne propose pas une morale abstraite détachée des événements. Ces fragments font émerger des valeurs éprouvées dans une situation de péril, au premier rang desquelles figurent la lucidité, la confiance et l'amitié. Pour Char, résister ne signifie pas se réfugier dans un optimisme facile. Il faut regarder la violence, reconnaître la possibilité de la mort et mesurer les conséquences de chaque acte. La lucidité devient donc une discipline de perception et de jugement. Elle protège contre les illusions, les slogans et les gestes qui sacrifieraient inutilement autrui. Mais cette exigence ne mène pas au repli solitaire. Les liens entre les membres du maquis, les habitants et les disparus donnent au livre sa dimension fraternelle. Char montre que la confiance ne repose pas sur une sentimentalité vague. Elle se construit dans la fidélité, la solidarité concrète et la reconnaissance de ce que chacun risque. Plusieurs fragments accordent aussi une place décisive aux paysages, aux villages et aux êtres ordinaires. Ces présences ne servent pas de décor apaisant. Elles rappellent ce qui doit être défendu contre la déshumanisation, soit une manière d'habiter le monde avec attention. Ainsi, la poésie agit comme une résistance intérieure et relationnelle. Elle refuse que la terreur impose son langage, son rythme et sa vision réductrice de l'homme. Elle maintient une capacité de discernement sans nier la douleur. Quatrièmement, une éthique de la décision face aux pertes irréparables. Feuillet d'Hypnos se distingue par sa manière de confronter le lecteur à des choix pour lesquels aucune solution ne peut être pleinement juste. Dans un contexte de guerre et de répression, protéger un groupe ou un village peut conduire à ne pas intervenir pour sauver immédiatement une personne. Char ne présente pas de telles situations comme des problèmes théoriques. Il fait sentir leur gravité par la sobriété du récit, par le détail physique et par le silence qui entoure la décision. Cette écriture écarte deux réponses commodes. Elle refuse autant la glorification de la dureté que la consolation morale qui prétendrait annuler les conséquences du choix. La responsabilité consiste ici à agir en tenant compte de vies multiples, tout en acceptant que la culpabilité et le deuil ne disparaissent pas. Cette tension éclaire le rapport complexe du livre à la violence. Char combat une violence organisée, mais ne transforme pas la lutte en permission générale de détruire. La résistance garde un sens parce qu'elle demeure liée à une limite morale et à la protection de ce qui rend la vie commune possible. Les fragments ne fournissent donc pas un manuel de conduite. Ils demandent plutôt comment préserver un jugement humain lorsque les cadres habituels de la justice sont brisés. Cette interrogation explique la portée durable du recueil. Elle concerne la mémoire des guerres, mais aussi toute situation où une décision urgente risque de masquer les personnes auxquelles elle s'applique. En dernier lieu, poésie. Mémoire et refus de laisser la guerre posséder le langage. Publié après la libération, le recueil intervient au moment où la mémoire de l'occupation commence déjà à être disputée. Simplifiée ou refoulée. Char ne répond pas à cette situation par une archive exhaustive. Il fait de la poésie un mode de sauvegarde singulier. Les fragments retiennent des sensations, des silhouettes, des paroles et des contradictions que les récits officiels risquent de négliger. Leur brièveté n'est pas un défaut de mémoire, mais la marque de ce qui ne peut être entièrement restitué. Écrire permet de garder un lien avec les disparus et les événements, tout en reconnaissant que le passé ne revient jamais intact. Cette position évite de figer la résistance dans une image monumentale. La mémoire demeure vivante parce qu'elle porte encore des lacunes, des questions et une dette envers ceux qui ont vécu. Le livre défend également une puissance propre du langage poétique. Les images de la lumière, de la nature, du sommeil ou de la pierre ne détournent pas de la guerre. Elles opposent à la langue administrative, militaire ou terrorisante, une parole capable de préserver la complexité sensible du monde. La beauté ne sert donc pas à embellir l'horreur. Elle constitue une manière de ne pas lui abandonner tout le réel. Cette articulation entre témoignage et invention poétique explique que Feuillet d'Hypnos soit à la fois un document majeur sur la résistance et une œuvre durable de la littérature française. En conclusion, Feuillet d'Hypnos conviendra particulièrement aux lecteurs de poésie moderne, aux étudiants en littérature, aux lecteurs intéressés par la résistance et à toute personne qui souhaite réfléchir au lien entre langage, violence et responsabilité. Il demande une lecture lente. Les fragments gagnent à être relus, replacés dans leur contexte historique et confrontés les uns aux autres, car leur sens ne se livre pas toujours immédiatement. Cet effort apporte cependant un bénéfice intellectuel réel. Le lecteur découvre une écriture qui ne sépare jamais complètement la beauté formelle de la vigilance morale. Il rencontre aussi un témoignage qui refuse les simplifications habituelles du récit de guerre en laissant subsister la peur, les pertes et les dilemmes de ceux qui agissent dans la clandestinité. Par rapport à un journal de guerre classique, le livre se distingue par sa concentration poétique et par son refus de la chronologie exhaustive. Par rapport à un recueil de maximes, il se distingue par son ancrage dans des événements et des risques vécus. Enfin, par rapport à une poésie purement lyrique, il affirme que les images et les formes brèves peuvent répondre à une crise historique sans devenir propagande. René Char ne donne ni leçons confortables ni récits héroïques fermés. Il compose une mémoire fragmentaire où la lucidité, la fraternité et le refus de la déshumanisation restent à conquérir. Cette exigence, jointe à la force très singulière de sa prose, explique la place durable de Feuillet d'Hypnos dans la poésie française du XXe siècle. Si vous souhaitez soutenir René Char, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.